Les jardinières.
Bon réveil à toutes et à tous. C'est parti pour une heure de jardinage. Bonjour Raphaël. Le jour n'est pas encore levé et il est déjà là, prêt à répondre à vos questions jardinage et à nous parler de la conservation des légumes. C'est Tom le jardinier. Bonjour Tom.
Bonjour, bonjour.
Tom le jardinier, vous êtes le créateur et l'auteur du site tomlejardinier.com, une mine de bons conseils jardinage, jardinage traditionnel, de permaculture et de cuisine. Merci d'être avec nous ce matin et ce matin, nous allons apprendre comment conserver nos légumes avec Tom. Mais pour commencer, Tom, dites-nous, nous sommes mi-octobre, que faire au potager?
Alors là, au potager, on rentre dans une pleine période où c'est qu'on va commencer à le mettre au repos. On peut commencer déjà à créer les nouvelles plates-bandes qu'on veut avoir pour l'année prochaine. Par exemple, on va faire la technique des lasagnes. Donc, on va mettre du carton, des feuilles mortes, les restes de tonte de pelouse, faire plusieurs couches comme ça. Comme ça, les vers de terre, ils vont labourer le jardin pour nous. Comme ça, on ne bêche pas, on ne se fatigue pas le dos. On va être en forme et on va avoir de belles plates-bandes qui seront prêtes à être plantées au début du printemps prochain.
Dans quelques minutes, Tom, vous allez nous parler de conservation de légumes. Ça sera juste après Mika et Grace Kelly.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Tom le jardinier, nous parlons de la conservation des légumes. L'automne, c'est la saison des choux, choux pommés, choux fleurs, choux romanesco. Alors, à moins d'être super fan des choux, on n'a pas forcément envie d'en manger à tous les repas. Tom, avez-vous des conseils à nous donner pour conserver ces fameux choux?
Alors, avant de les récolter, on peut garder les choux quelques mois déjà au potager, même s'ils arrivent à maturité. Pour éviter que les pommes, elles éclatent, c'est un phénomène qui arrive quand les choux, ils sont surmatures, on arrête les arrosages. Donc, on va essayer de protéger avec un filet, par exemple, ou un plastique qui laisserait plus passer l'eau, et on paille les pieds pour garder le sol quand même un peu humide. Et là, on va pratiquement pouvoir les conserver jusqu'à la fin de l'hiver. Si on les récolte et puis qu'on doit les mettre au réfrigérateur, on va plutôt utiliser le bac. Parce que le réfrigérateur, c'est le pire endroit pour conserver pratiquement les légumes. Parce qu'il a tendance à sécher les légumes. Donc voilà. Et puis, ils peuvent rester pratiquement une semaine s'ils sont bien emballés. Moi, j'utiliserai un sac en papier ou un sac en tissu pour éviter le phénomène très séchant des frigos.
Merci en tout cas beaucoup Tom de parler légumes avec nous ce matin, mais c'est aussi la saison des pommes et des poires. Alors moi je me posais la question, comment faire pour les conserver sachant que la poire est un fruit bien plus fragile que la pomme?
Alors pour les pommes, on va les déposer dans des cageots, avec des cageots si possible ajourés pour qu'ils laissent passer l'air. Il faut étaler bien les fruits pour qu'ils ne se touchent pas. Comme ça on évite qu'ils se contaminent entre eux s'il y en a un qui devient malade. La cave, c'est vraiment le meilleur endroit pour pouvoir stocker nos pommes, nos poires. Ce que je me conseille aussi, c'est de bien récolter les fruits à maturité et puis faire régulièrement des passages dans la cave pour voir s'il y a une pomme qui commencerait à être pourrie ou une poire. Et comme ça, on évite qu'elle contamine tous les autres. Puis sinon, si on veut vraiment pouvoir si on n'a pas de cave, parce qu'on a de moins en moins de caves dans nos appartements et dans nos maisons, il y a la résinée, qui est un bon moyen de conserver la pomme, et le jus de pomme.
Le fameux jus de pomme, ou le cidre, mais bon, 7h20.
C'est un peu tôt, Mylène.
On continue avec les fruits et celui de saison par excellence, qu'on commence à voir un peu partout, c'est le coin. Est-ce que le coin peut également se conserver comme la pomme, ou sinon doit-on l'utiliser tout de suite?
Alors, moi, le coin, on peut le conserver comme la pomme, mais je trouve qu'il va vite aussi avoir quelques petits problèmes de pourriture. Il est vraiment plus sensible que la pomme et encore plus que la poire. Par contre, là, moi, je conseille de le transformer. Il y a plein de façons de le conserver. Par exemple, faire de la gelée de coin, des gâteaux de coin. Puis on peut même le presser avec des pommes pour faire un jus de pomme coin qui est aussi délicieux. Puis il y a aussi la traditionnelle pâte au coin.
Merci beaucoup, Tom. Vous n'hésitez pas, vous avez des questions à poser à Tom sur la conservation des légumes ou la conservation des fruits. Vous pouvez nous appeler 0900 70 20 20. Vous pouvez également envoyer vos messages. Vous tapez jardin, un espace et votre question par SMS. Vous nous l'envoyez au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émission, question aux jardinières.
7h, 8h. Les jardinières.
L'automne, c'est le moment de faire des réserves pour passer l'hiver tranquille, un peu comme un écureuil. Et tiens, pourquoi ne pas faire comme l'écureuil et partir chercher des fruits dans la forêt ? Tom, pouvez-vous nous dire ce qu'on peut trouver facilement dans nos forêts et gratuitement ?
Et oui, gratuitement, on peut trouver des noisettes, des noix, des châtaignes, les fruits du cynorhodon, la nef, les fruits de l'aubépine aussi appelés épines blanches sont très comestibles. Il faut attendre quand même qu'ils ont gelé, parce qu'ils sont encore meilleurs une fois qu'ils ont gelé. Et les fruits du sorbier des oiseleurs, qui font des fruits oranges, qui sont ronds et qui sont délicieux. Et même ça se distille. Il y a aussi les champignons, qui sont à aller chercher si on les connaît. Et pourquoi pas aussi des branches de sapin, on peut en faire des tisanes hivernales et des infusions assez originales. Par contre, avant d'aller chercher tout ça, munissez-vous peut-être d'un petit livre ou d'un petit guide pour être sûr que vous consommez uniquement ce que vous connaissez. N'allez pas consommer des champignons qui pourraient être toxiques.
Marron ou châtaigne, en revanche, il est parfois difficile, Tom, de faire la différence, car l'un des comestibles et l'autre n'est pas. Dites-nous comment trouver celui qu'on va faire griller.
Alors, ben, déjà, on reconnaît à la bogue. Donc la bogue, c'est ce qui va entourer le marron, la châtaigne. La bogue de la châtaigne est beaucoup plus piquante, il y a beaucoup plus de pic. Donc,
comparer à un oursin en fait.
Voilà, ça ressemble plus à un oursin, et puis tandis que le marron, il a beaucoup moins de pic, il en a quelques dizaines dessus, et puis le châtaignier est plus frileux, donc si vous habitez la Chaux-de-Fonds, si vous habitez les Franches-Montagnes, je pense que vous pouvez oublier de trouver des châtaigniers. Par contre, si on arrive dans les côtes, vers Neuchâtel, ça, il y a possibilité d'avoir quelques châtaigniers.
On va rester dans les fruits à coque. Noix et noisettes sont aussi monnaie courante. Après les avoir ramassées, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on doit les conserver ?
Alors, moi, ce que je faisais quand j'étais plus petit, je les posais sur des cajots avec un papier journal au fond et je les laissais sécher sur le radiateur. Puis après, une fois qu'elles sont secs, comme ça, bien conservées, moi, on peut les conserver facilement une année dans des bocaux, pourvu qu'on les aère de temps en temps, et voilà.
Merci beaucoup, Tom. Et puis, on va parler, Raphaël, d'un fruit peu connu.
Exactement, peu connu, c'est la nèfle, si je le prononce juste. Dites-nous, Tom, c'est quoi exactement la nèfle ?
Alors, la nèfle, c'est un fruit qui ressemble un petit peu au coin, mais beaucoup plus petit. On le trouve au bord des forêts et des clairières, au bord des lisières. Par contre, il faut faire attention, je crois qu'il y a dans certaines régions de Suisse romande, c'est assez protégé. Il faut donc plutôt aller en planter dans son jardin, et c'est meilleur une fois que ça a gelé. On peut en faire aussi de la confiture, on peut aussi le distiller. S'il y a des amateurs de distillerie et de gnôle, ne pas hésiter aussi à les distiller. Et puis là aussi, c'est une fois meilleur quand c'est gelé, parce que ça concentre un petit peu plus les sucres. Par contre, on a presque meilleur temps aussi, on parlait du cynorhodon avant, ou des fruits des sorbiers. On a meilleur temps de les récolter une fois qu'ils sont pas encore gelés et de les mettre dans notre congélateur, parce que une fois qu'ils sont gelés, ils sont aussi attractifs pour les oiseaux. Donc si on veut pas se faire piquer la vedette pour récolter nos fruits, c'est meilleur temps de faire comme ça on évite évidemment d'avoir de la concurrence avec les oiseaux.
Voilà, choisir vous affamer les petits moineaux. Merci beaucoup Tom pour toutes ces précisions. Deuxième partie de notre émission consacrée au jardinage. Ce matin, nous sommes en compagnie de Tom, le jardinier, créateur et auteur du site www.tomlejardinier. Des bons conseils jardinage traditionnel, mais aussi permaculture et cuisine. Tom, le jardinier, que vous retrouvez également sur les réseaux sociaux en vidéo, souvent.
Alors, n'hésitez plus, posez-lui vos questions par téléphone 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et la chance de lui parler en direct. Vous pouvez également nous envoyer un SMS si vous êtes plus timide. Vous tapez jardin, un espace et votre question que vous nous envoyez avec au 939. Ou vous pouvez également le faire sur notre formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission, question aux jardinières. Et là, vous pouvez même y ajouter une photo.
7h, 8h. Les jardinières.
Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de conservation de légumes avec vous, Tom, et on a reçu une question qui nous parle de betteraves, qu'on connaît aussi sous le nom de racines rouges. Et cette personne aimerait savoir comment la conserver. Oh, je vous ouvre le micro, ça sera mieux, voilà.
La bonne conservation de la betterave, c'est de laisser à peu près 3 cm de feuilles ou de tiges au-dessus de la racine, et elle se conserve en cave, c'est le mieux. Et si on n'a pas de cave, devant les maisons, des fois il y a des rebords, c'est qu'il y a de la terre, on peut évider un petit peu cette terre-là et mettre du sable. Puis sinon, on en fait des bocaux. On peut faire pas mal de bocaux avec pas mal de légumes. La betterave en fait partie. Ça en fait la même chose que le navet aussi, qu'on a des navets d'automne. Et ces navets se conservent aussi pendant pratiquement tout l'hiver, jusqu'au début du printemps prochain.
Donc si on vous écoute, Tom, en fait, tout se conserve très bien pendant l'hiver, finalement.
Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se conserver très très facilement. Et puis du coup, on a encore plein de vitamines, plein de saveurs avec les herbes aromatiques aussi. On oublie souvent de conserver nos herbes aromatiques, mais on peut avoir du persil, même du basilic. Pendant le plein milieu d'hiver, si on l'a mis, par exemple, haché finement dans de l'huile d'olive, dans des bacs à glaçons, et on peut se faire des pâtes au pesto très facilement en hiver.
Et là, ça va être la période de certaines salades, comme la doucette, par exemple. Et une doucette, est-ce qu'on peut imaginer la garder jusqu'au printemps?
Alors, la doucette, il faut savoir qu'elle se conserve très bien encore, même sur pied, dans son jardin. Donc, au lieu de la récolter trop d'un coup, elle peut se conserver très facilement au jardin. Par contre, si elle a déjà été récoltée, là, moi, je conseille de l'emballer dans un sac en plastique. Hein, on récupère un petit sac en plastique qu'on a quand on les achète, par exemple, sur le marché. On le ferme bien et on le met dans le bac à légumes de notre frigo. Le frigo, entre 8 et 12 degrés, c'est là que c'est le mieux. On peut faire pareil aussi avec les épinards. Et puis, la doucette, on l'oublie assez souvent, on peut la cuire aussi et en faire un pesto en plein hiver de doucette. Donc, ça peut apporter aussi pas mal de goût et remplacer notre basilic en hiver.
À tester alors, la doucette cuite. On va faire une pause musicale et puis après, nous allons parler d'un arbre fruitier qui a un sacré problème sur les feuilles. On se retrouve tout de suite.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi matin. Vous pouvez poser vos questions par téléphone au 0900 70 20 20, mais aussi par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question, SMS que vous nous envoyez au 939, ou par formulaire, ça se passe sur notre site sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. D'ailleurs, Raphaël, nous avons reçu une question via nos formulaires.
Exactement, et on revient un petit peu sur la thématique de la semaine passée, puisqu'on parlait un fruitier dans l'émission des jardinières de samedi passé. C'est mon homonyme Raphaël de Mauvelier qui nous a écrit « Bonjour, pouvez-vous nous dire ce que notre arbre fruitier a comme problème sur les feuilles ?» Alors évidemment, Tom, vous avez la photo sous les yeux que Raphaël nous a joint. Elle n'est pas belle, il n'est pas beau cet arbre fruitier.
Alors effectivement, c'est pas terrible. Alors il s'agit d'un poirier et je pense qu'il a une rouille gréagée. Donc la rouille gréagée, c'est un champignon qui va passer la belle saison sur les poiriers et la mauvaise saison sur les juniperus, donc les arbres, les baies de genièvre. Donc, s'il a des baies de genièvre pas loin de chez lui, je conseille de soit les sacrifier, soit sacrifier le poirier, parce que généralement, c'est le bon refuge pour aller pour avoir cette maladie. Ben, sinon, il y a des traitements un petit peu à base de produits antifongiques. On parle par exemple d'une décoction d'ail, de prêle, etc. Donc, petite potion magique pour éviter d'avoir cette maladie cryptogamique.
Cryptogamique. Peut-être on va décrire rapidement à quoi ressemble ce champignon. Comme ça, les gens qui ont ça sur leur poirier ou leur d'autres arbres vont se dire « Ah ben tiens, c'est ça que j'ai ».
Alors,
ça ressemble à une bouche avec des dents.
Alors, c'est une espèce de grosse pustule qu'on peut voir sur les feuilles, mais en pleine saison, ça fait vraiment une rouille gréagée, donc ça fait vraiment tout plein de petits points bruns sur la feuille. Donc là, on est en fin de saison, donc les spores, donc la partie reproductible du champignon est en train de s'échapper pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc c'est ça qui fait ces espèces de pustules sous les feuilles.
Merci beaucoup, Tom. Tout à l'heure, nous avons parlé de la conservation des fruits. Vous nous avez même parlé des fruits de la forêt. On va revenir sur les cynorhodons, appelés couramment gratte-cul. Également, une personne nous demande quand les cueillir et surtout que faire avec. Est-ce qu'on peut les manger tel quel, comme un petit bonbon ?
Alors, on appelle ça aussi rosier sauvage, donc il faut mettre des gants hein, pour quand on va aller les récolter, éviter les griffures et les petits bobos que ça pourrait faire. On les consomme aussi une fois qu'ils ont gelé, mais pour ne pas être en concurrence avec les oiseaux, moi je les récolterai maintenant et au congélateur. Puis pour les consommer, évidemment, on va enlever la partie avec ces graines à l'intérieur qui sont assez avec ce petit poil irritant, parce que c'est pas très très c'est pas bon du coup. Et puis on peut en faire plein de bonnes choses, par exemple une confiture qui est très bonne avec une viande de chasse, par exemple, c'est la saison. Puis après avec cette confiture aussi, pourquoi pas faire une belle tarte de Linz.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble encore un peu moins de 10 minutes. Mais le temps de poser encore quelques questions à Tom le jardinier qui est avec nous ce matin. On va parler de bacs de tomates. Une personne a planté des tomates devant chez elle dans des grands bacs. La saison est finie, il a arraché les plants de tomates et il aimerait savoir, est-ce qu'il doit laisser les bacs tels quels ou les couvrir? Et est-ce qu'à la fin de l'hiver, il pourra simplement replanter des nouveaux pieds de tomates à l'intérieur?
Alors, pour moi, les bacs de tomates, le truc, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule culture de tomates dedans. Donc, ça a pris beaucoup d'éléments que la tomate apprécie. Donc, l'année prochaine, on va éviter de replanter des tomates dans ces bacs parce que la terre est déjà pauvre de ces matières, ces éléments. Ce qu'on peut faire, par contre, si ces bacs, c'est par exemple du plastique, s'ils ne sont pas perforés, il faut quand même les abriter de la pluie parce qu'avec le gel, le dégel, les bacs risquent de casser. Donc vérifier qu'ils sont bien perforés en tout cas, et puis après les protéger par exemple avec des feuilles mortes ou épipes par exemple. Si ces bacs sont bien abrités, peut-être mettre une petite salade de doucette pour l'hiver.
La bonne idée. Merci beaucoup Tom. Raphaël, vous nous parlez plutôt des noix.
Exactement, nous avons ramassé des noix, certaines étaient encore dans leur bog. Comment faire pour les conserver? Est-ce qu'il faut les laver? Merci beaucoup.
Alors, il n'y a pas besoin de les laver sous l'eau du robinet et utiliser des tonnes d'eau potable pour ça. Juste enlever les bogues, les frotter avec une petite brosse. Et de toute façon, la partie qu'on va consommer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, les cerneaux. Donc, pas besoin de nettoyer quelque chose qu'on ne va pas consommer.
Je me demandais justement, les noix, on les ramasse facilement. Hein, c'est vraiment la saison en ce moment. Par contre, des fois, on a la mauvaise surprise quand on l'ouvre. Soit c'est pourri, soit c'est tout raplapla, tout rabougri dedans. Est-ce qu'il y a un truc, quand on prend la noix à même le sol, on peut la secouer ou pour savoir si elle va être bonne par la suite ou pas?
Alors, il n'y a pas vraiment d'astuce, mais on peut regarder aussi un petit peu en fonction du poids hein, de la noix. Il y en a quelques-unes qu'on peut dire, ouais, elle est tellement légère que ça va, il va rien avoir à l'intérieur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que les cerneaux de noix, ça peut être aussi utilisé pour faire de la teinture. Donc, ces bogues pour faire de la teinture un peu marron, comme la noix, pour des vêtements, par exemple. Donc, c'est aussi utilisable pour ce genre de choses-là.
Le fameux brou de noix.
C'est ça.
Tom, on parle beaucoup de noix. Vous êtes jardinier, mais vous êtes aussi un spécialiste de cuisine. Si je vous dis noix, est-ce qu'il y a une recette qui vous tente comme ça ou est-ce que vous avez plutôt d'autres envies en ce moment?
Alors, il y a le fameux traditionnel gâteau aux noix, le produit le plus calorique qui est souvent vendu dans nos grandes surfaces.
Originaire des grisons.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est des pommes au four avec les recettes un petit peu de notre maraude. On va utiliser des noisettes pour faire dedans. Donc, on va prendre des pommes, on va les peler, on va retirer le trognon de notre pomme avec un vide-pomme. On va les mettre dans une casserole avec à peu près un décilitre de cidre ou de jus de pomme. Et puis, on va mettre aussi un décilitre d'eau et on va laisser cuire pendant 10 minutes. Une fois que nos pommes sont cuites, on va les sortir, on va les mettre dans un plat à gratin et on va mettre le jus de côté parce qu'on va les utiliser pour les cuire. Ensuite, on va faire une farce. On va utiliser 2 cuillères à soupe de sucre et on va mettre les ingrédients. On va mettre des noisettes moulues, à peu près 2 cuillères à soupe. On peut mettre des raisins ou même les cynorhodons si on les a enlevés, la partie évidemment de l'intérieur. On peut mettre un demi citron bio avec le zeste et surtout le jus pour un petit peu casser la pomme pour qu'elle ne brunisse pas. Et on va farcir les pommes avec ce mélange. Puis après, on va les mettre au four four, on va verser le jus autour de nos pommes et on va mettre quelques noisettes de beurre et on va faire cuire environ ça 20 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés. Et ça, c'est délicieux, par exemple, avec des boules de glace vanille ou un peu de crème chantilly. Mmh.
C'est cochon.
Tom,
hein.
Vous faites quoi à midi ? Faut que je vous rejoigne parce que là, vous m'avez donné envie, clairement.
Moi, j'ai l'odeur de la pomme dans le four, là.
Ah, c'est une recette un petit peu d'enfance, donc voilà.
Est-ce qu'on la retrouve sur votre site ou pas encore ?
Pas encore, il faut que je la fasse.
Alors faites-le, parce que je pense que quelques amateurs auront envie de la tester.
Tom,
et vous nous invitez tous chez vous, Raphaël, voilà, c'est dit.
Avec plaisir.
Ce matin, nous avons parlé de conservation de légumes, comme des choux, mais aussi des fruits, pommes, poires, coings. Nous sommes mi-octobre, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre balcon ou au jardin ?
Alors là, c'est la grande, grande période pour planter tous les bulbes de printemps. Donc on a les narcisses, on a les tulipes, on a les jonquilles, etc., etc. C'est la bonne période pour les faire. Une petite astuce, on ne sait jamais tellement à quelle profondeur planter ces bulbes. On prend la taille du bulbe et on fait x3 et on a bien la profondeur de plantation. Si on habite les franches montagnes ou dans des régions un petit peu plus fraîches, on peut planter ces bulbes un petit peu plus profond. La tulipe va venir un petit peu plus tard en fleurs et on évite qu'elle soit, ce que j'avais généralement dans mon jardin, recouverte par la dernière neige du printemps. Et voilà, c'est une chose qu'on peut faire maintenant. On peut aussi récolter ce qu'on avait dit avant, les épinards, la mâche, protéger aussi tous nos plantes qui commencent à être un petit peu sensibles au froid. Il fait quand même gentiment des nuits assez fraîches. Citronniers, oliviers, si on a des romarins en pot, qu'on habite un petit peu en altitude, c'est le bon moment de les ranger dans une véranda ou dans un endroit où il fait pas trop chaud, hein, parce que ces plantes-là aiment avoir une période aussi un petit peu de froid. Puis voilà, je pense qu'on a déjà une bonne partie de nos travaux pour ce week-end. Et un truc aussi, c'est de vérifier, on a de plus en plus de pluie en automne, s'il y a des trous à nos pots pour pas que nos plantes se retrouvent inondées, parce que il va faire mauvais, c'est l'automne. Donc voilà, vérifier que tous les pots et tout ça sont bien perforés.
Merci pour le conseil pratique. Tom le Jardinier, on rappelle que vous êtes le créateur et l'auteur du site tomlejardinier.com. Une mine de bons conseils jardinage traditionnel, de permaculture et de cuisine. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été en notre compagnie ce matin et on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
Merci Tom. La semaine prochaine, c'est Philippe Détra qui répondra à vos questions dès 7h. D'ici là, vous pouvez les poser par SMS ou via le formulaire. Très bon week-end Raphaël.
Très bon week-end, Mylène.
À samedi prochain. Bon week-end à tous. Surtout, prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.